Une heure de culture, d'actu, dans la bonne humeur, sur Transistor.
C'est quand ?
C'est en ce moment.
Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue sur Transistor pour ce deuxième direct de l'année, aujourd'hui, jeudi 11 février. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h, pour une après-midi riche en péripéties, vous le verrez. Et comme vous avez pu l'entendre, au générique, c'est en ce moment le grand journal de la rédaction qui ouvre le bal. Et c'est vers Quentin que je me tourne pour, justement, le journal de ce jeudi 11 février. Bonjour Quentin.
Bonjour Clément. Politique. Remaniement ministériel. On attend dans la journée de ce jeudi 11 février l'annonce par le président François Hollande du détail de son remaniement. Si le départ du ministre des Affaires Laurent Fabius pour la présidence du Conseil constitutionnel est entériné depuis hier matin, le sort des autres ministres reste encore incertain. Ce remaniement est en effet l'occasion pour le président de la République de proposer une équipe nouvelle en vue des présidentielles. D'autre part, l'action du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est largement commentée aujourd'hui dans la presse. Son bilan positif en matière d'environnement et de diplomatie économique est un succès, alors que sa gestion du conflit syrien laisse davantage sceptique. A noter qu'en acceptant cette nomination, celui qui a été le plus jeune Premier ministre de la Ve République renonce définitivement à toute aspiration à la présidentielle, à un âge où Alain Juppé semble se lancer dans la bataille. Toutefois, l'ancien ministre insiste pour conserver la présidence de la COP21 jusqu'à ce que le Maroc récupère celle-ci en novembre 2016.
Et du nouveau sur les bancs de l'Assemblée, Quentin ?
Oui, Clément. La déchéance de la nationalité a été votée hier soir par les députés par 317 voix contre 199. Le projet de loi doit être examiné dans un mois par le Sénat qui, rappelons-le, est à majorité de droite. Cette ratification est essentielle car le texte ne pourra pas être présenté devant le Congrès à Versailles s'il n'obtient pas l'aval du Sénat.
Et c'est en bonne voie pour l'adoption du texte ?
Ah, rien n'est moins sûr, Clément. En effet, si l'Élysée affirme que de son côté, je cite, « l'objectif c'est que la révision constitutionnelle soit adoptée », beaucoup d'observateurs soulignent qu'avec un Sénat à droite et la nécessité d'une majorité aux 3/5 au Congrès, le texte risque soit de ne pas aboutir, soit d'être vidé de toute substance.
Et puisqu'on parle de substance, Quentin, qu'en pense le philosophe Emmanuel Macron ?
Oh, eh bien, ce dernier a choisi une position pour le moins risquée, car en critiquant le débat autour de la déchéance de la nationalité, celui-ci s'attire les foudres de Matignon, mais aussi de l'Élysée. Si Manuel Valls ne cache absolument pas son énervement à l'égard du jeune ministre, François Hollande n'apprécie pas non plus que ces prises de position qui rapprochent Emmanuel Macron des frondeurs. Affaire à suivre donc, en espérant que ce dernier ne prenne pas lui non plus la porte de Bercy sur un vélo jaune.
Et alors, puisqu'on parle de Bercy, j'ai cru entendre que la Cour des comptes a sorti son rapport annuel sur la gestion de la dette publique.
C'est exact. Et la Cour des comptes, en la personne de son président, Didier Migaud, alerte dans son rapport annuel sur l'évolution des finances publiques françaises. Ces dernières continueraient d'augmenter pour approcher les 100% du PIB du pays. La critique est un peu moins virulente que les années précédentes, car le déficit sur l'année devrait être légèrement inférieur à 3,8% du PIB, ce qui était initialement prévu. Mais Didier Migaud juge incertains les objectifs de 2016, dont les recettes seraient, selon la Cour, surestimées. Il souligne la nécessité de réformes supplémentaires afin de juguler les dépenses de l'État, qui risqueraient sinon de ne pas correspondre aux prévisions faites pour l'année à venir.
Et tu voulais aussi nous parler d'un rapport de la Cour des comptes régionale, je crois.
Oui, Clément, et celui-ci concerne Patrick Balkany. Le maire de Levallois-Perret voit sa gestion des finances de la ville épinglée dans un rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes. 192 pages à paraître la semaine prochaine, où la Cour souligne un malencontreux oubli de 117 millions d'euros dans les comptes de la ville.
Oups !
En effet, oups, la ville aurait en effet maquillé des dépenses afin de produire un budget à l'équilibre. Seraient concernés les exercices de 2007, 2011 et 2012.
Mais Quentin, je sens pourtant que ce n'est pas tout.
Ah là là, tu as bien raison, cerise sur le gâteau, la Chambre régionale affirme que la mairie de Levallois-Perret, tristement élue ville la plus endettée par habitant de France, tout de même, aurait attribué dans des procédures d'appel d'offres irrégulières des marchés à la société Big Malion, mise en cause dans l'affaire du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, Le Monde est petit.
Le ciel ne semble pas se dégager au-dessus de la droite, apparemment.
Ni au-dessus de la tête des époux Balkany.
Et quoi de nouveau sur la scène internationale en ce jeudi 11 février ?
Alors, Air Cocaine. En République dominicaine s'ouvre aujourd'hui le procès en appel des quatre Français condamnés dans l'affaire pour trafic de drogue. On rappelle que deux des pilotes sont en détention provisoire en France après s'être échappés alors qu'ils étaient en liberté conditionnelle dans le pays. Le ministère public a d'ores et déjà demandé que leur peine de 20 ans de prison pour trafic de drogue soit confirmée devant les juges. A noter qu'une enquête est également en cours du côté de la France, mais que celle-ci risque d'être paralysée si la condamnation des quatre Français était effective en République dominicaine, car le droit international interdit de juger deux fois quelqu'un pour des faits identiques.
Affaire à suivre donc.
Eh oui, affaire à suivre, tout comme le dossier coréen, puisque la situation reste toujours très tendue à la suite du tir d'essai de missiles balistiques effectué par Pyongyang dimanche matin. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence ce dimanche à New York à la demande du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis pour condamner fermement ce tir. Cependant, les sénateurs américains n'ont pas attendu l'issue des négociations au Conseil de sécurité pour prononcer de nouvelles sanctions. Ils ont à l'unanimité voté mercredi soir, donc hier, un texte qui rend obligatoire des sanctions existantes contre toute personne ou entreprise qui aiderait le régime dans sa course aux armements de destruction de masse.
Et alors pour finir, on quitte l'international avec une note d'économie ?
Oui, les marchés financiers ne sont pas très en forme ce matin dans la continuité de ce qui se passe depuis le début de l'année. D'ailleurs, la déclaration hier de la présidente de la Fed, Janet Yellen, entre prudence et pessimisme, n'a pas du tout rassuré les marchés. On s'étonne pourquoi. Sa vision de l'économie mondiale s'est considérablement obscurcie depuis sa dernière intervention publique le 16 décembre dernier. Et ce matin, dès l'ouverture, le CAC 40 a chuté de 100 points en une heure pour se stabiliser au-dessus des 3900 points.
Merci Quentin. On te retrouve dans une heure pour le Flash Info.
Alors, avant les au revoir, on a juste le temps de prendre un café et l'addition.
Et oui, c'est le café des éditorialistes, trois éditos pour trois voix. Et on commence avec l'édito international proposé aujourd'hui par Maxime. Bonjour Maxime.
Bonjour. Alors je vous parlais des primaires américaines. Tandis que l'ami Barack Obama peine, comme d'habitude, à appliquer des mesures de limitation des émissions de centrales thermiques aux États-Unis, la course pour les présidentielles, qui se tiendront à la fin de cette année pour une investiture en 2017, se met en place. Nous n'en sommes encore qu'aux primaires, c'est-à-dire que chacun des deux grands partis dominants du jeu politique américain choisit son candidat pour l'élection proprement dite, via un processus assez complexe et indirect, tout comme l'élection elle-même, ce qui peut sembler paradoxal vu la personnalisation des fonctions politiques aux États-Unis. Deux États jusqu'aujourd'hui, deux résultats. Le 1er février, c'était dans l'Iowa. Chez les éléphants, le symbole des républicains, ce fut une victoire pour Ted Cruz, sénateur du Texas, 45 ans, avec 28% des voix, contre 24% à notre adorable et chère idole blonde, notre ami Donald. Une assez grosse surprise d'ailleurs, car on l'avait vu en tête, mais que voulez-vous, un milliardaire républicain, ça trompe énormément. Alors, le public français a été assez sensibilisé au positionnement ontologico-philosophique de M. Trump, qui pendant un moment nous sortait quand même un bon gag par semaine. Je ne reviens pas sur les aspects sympathiques de ce personnage d'emblée assez connu aux États-Unis pour sa tendance multimilliardaire au tape à l'œil et son non-respect de la political correctness, plaisant à un certain nombre d'Américains qui en ont plus qu'assez de la politique politicienne, de la langue de bois, et puis que personne n'ose mettre sur la table ce beau projet de grande muraille de Chine qui nous mettrait une bonne fois pour toutes en déroute toutes les hordes d'envahisseurs venus du Sud. Bon, de fait, la division règne dans les rangs du parti. Trump est un outsider qu'on n'attendait pas du tout au tournant, au contraire de Jeb Bush, fils de l'Auguste W du même nom, tradition politique de famille comme chez Bonaparte. Hélas, Jeb s'est écrasé avec 2% en Iowa. Un concurrent plus sérieux pourrait être incarné par Marco Rubio, 44 ans. Très clean, frange parfaitement maîtrisée, cravate bien droite, discours tout à fait raisonnable et calibré. Du moins, est-ce là ce dont on pourrait avoir l'impression en l'écoutant parler une fois, parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne changeait pas de script d'un discours à l'autre, ce qui a tendance à rendre le plateau des émissions assez nerveux, un peu comme un vieux disque de ta grand-mère qui riperait sur une poussière. Il a fini par se faire reprendre assez durement et il a depuis du mal à garder la tête haute, le petit genou. Côté démocrate, c'est l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, femme de Bill, le président, qui l'a emporté, mais attention, pas de beaucoup. 49,9% des suffrages contre son adversaire Bernie Sanders à 49,6%, ce qui est déjà inespéré pour lui. Inespéré car Bernie Sanders, sénateur du Vermont, a l'audace de se définir comme un Democratic Socialist, étant passé par la Young People's Socialist League à l'université. Il vient juste de rejoindre le Parti démocrate, il était auparavant étiqueté indépendant, tout en affichant une carrière politique très respectable qui a commencé les années 90. Alors cela n'a sans doute pas choqué les oreilles françaises, mais aux États-Unis, le simple mot de socialiste continue d'évoquer faucille et marteau en embuscade. Plus sérieusement, on fait mal la différence entre socialiste réformiste et communiste révolutionnaire, de sorte qu'un pourcentage non négligeable de la population américaine considère probablement que la France est devenue une sorte de démocratie populaire depuis 2012. Alors, qu'est-ce que ça a donné dans l'état suivant ? C'était au New Hampshire et c'était avant-hier, mardi 9 février. Précisons au passage qu'il ne s'agissait pas du même type de scrutin. Bon, en Iowa, c'est très compliqué, ça s'appelle un caucus, c'est peu commun, c'est financé par les partis, on se rassemble pour voter pour des gens, qui votent pour des gens dont le rôle est de voter pour des gens. Dans le New Hampshire, il s'agissait d'une primaire proprement dite, donc plus conforme à ce qu'on connaît en France. Dans les deux cas, un certain nombre de délégués est choisi, les candidats seront définitivement validés par les deux grands partis quand ceux-ci rassembleront tous les délégués à la fin du cycle des primaires, en y ajoutant un certain nombre de personnalités politiques de chaque parti. Et en fait, ça sonne comme un retournement, ces résultats. Chez les Républicains, Trump l'emporte de très loin, avec 35% des voix. Il a bien tenu. En fait, c'était relativement prévisible. Deuxième place, John Kasich, un républicain modéré, qui se présente comme un pragmatique à l'ancienne autour des 15%. Les suivants sont autour de 10%, pour les plus importants. Les perspectives qui vont se dégager de ce côté-là sont assez incertaines. Trump va-t-il continuer de l'emporter en surfant sur le refus précisément de cette espèce de pragmatisme qui ne crie pas assez fort ? Un congénère va-t-il reprendre de l'avance ? Sûrement pas Kasich, en tout cas, qui mente de fond pour sa campagne. Il y a une vraie incertitude et nous ne commencerons à y voir plus clair que dans le feu de l'action en mars. Prochaine étape pour les Républicains, la Caroline du Sud. Chez les démocrates, c'est le choc en revanche. Sanders pointe à 60%, Clinton tombe à 38%. Wow. Mais en fait, la victoire du socialiste avait été clairement annoncée. La raison ? Les citoyens du New Hampshire sont quand même sacrément blancs. Sanders a un énorme succès parmi les jeunes, notamment la tranche des 20 ans, qui aimerait bien changer des trucs, y compris les femmes, malgré l'avancée que représenterait pour d'autres, généralement plus âgés, l'élection d'Hillary à la plus haute fonction politique américaine. Mais Sanders fait beaucoup moins mouche parmi les noirs américains et les latinos, et parmi les minorités en général, qui sont peu sensibles à ses discours, et à vrai dire ne le connaissent pas vraiment. Prochaine étape donc pour les démocrates, le Nevada, et autant dire qu'il a du boulot. Il a déjà commencé à sillonner les temples protestants des communautés afro-américaines, mais avec ce désavantage et le poids de l'establishment dans le vote final, peu de spécialistes croient qu'une victoire de son côté soit possible, mais on peut encore s'attendre à des surprises.
Oui, et toi tu aimes les surprises, je crois. Alors merci Maxime, et on suivra de toute façon sur Transistor l'actualité des élections américaines. Et on vous accompagne toujours dans votre début d'après-midi, dans votre café que l'on va saupoudrer maintenant, non de sucre, mais de politique.
Françaises, Français. Le débat d'aujourd'hui portera sur la politique. La politique, comment, pourquoi et quand.
Moi, président de la République.
Au revoir.
Et c'est Mathias qui saupoudre votre café. Bonjour Mathias.
Bonjour Clément. Aujourd'hui Clément, je dois avouer, je suis un peu énervé du circonflexe.
Ah oui.
Oui, vous n'aurez pas manqué l'agitation qui a animé le net récemment, début de semaine, le buzz comme on dit, après que les manuels scolaires ont fait savoir qu'ils allaient appliquer la réforme de l'orthographe votée par l'Académie française en 1990. Au programme, suppression des accents circonflexes sur certains mots, sauf pour les flexions des verbes et pour les homophones, sur et sur, mur et mur par exemple.
Merci de donner des exemples.
Et oui. Ainsi que la jonction des mots composés comme week-end ou porte-monnaie qui s'écrirait en un seul mot. Je n'oublierai pas évidemment de mentionner le fameux oignon qui serait malheureusement amputé de son i et qui s'écrirait O-G-N-O-N, ainsi que nénuphar qui perdrait son ph et s'écrirait avec un f. Mais vous me direz, mais qu'est-ce que cela vient faire dans un édito politique ? Eh bien, indépendamment de toutes ces considérations linguistiques et lexicographiques, ce qui m'a beaucoup étonné, ce sont les réactions politiques qu'a suscité ce tremblement de terre orthographique. Ainsi, l'UNI, syndicat étudiant proche de la droite dure, c'est un euphémisme,
très fréquentable,
et l'Observatoire des programmes scolaires, qui est en fait un organisme, qui est en fait une succursale de l'UNI, donc à peu près la même chose.
D'accord.
On publie un communiqué de presse assassin qui attaquait Najat Vallaud-Belkacem,
évidemment,
la ministre de l'Éducation nationale. Je cite : d'un trait de plume, la ministre se croit ainsi autorisée à bouleverser les règles de l'orthographe de la langue française. Haro sur la ministre, qui aurait pour projet de détruire l'enseignement du français à l'école, soit, voire de détruire la langue française et pourquoi pas la France elle-même.
Rien que ça.
Oui, d'ailleurs, la ministre s'en est jouée dans une conférence de presse disant que oui, elle avait depuis ses 13 ans l'intention de faire un attentat contre l'accent circonflexe. La droite et l'extrême droite se sont emparées de ce sujet pour attaquer sur un nouveau front la ministre, la refonte des programmes scolaires et ainsi la réforme du collège. J'ai donc pu écouter sur France Inter Luc Chatel, ancien ministre de l'Éducation nationale, déclarer que oui, cette réforme faisait partie de la réforme plus large des programmes. Mensonge éhonté qui a suscité pas mal de remous, notamment sur la toile. L'ancien ministre faisait fi alors de toutes les déclarations des principaux intéressés. Par exemple, Sylvie Marsay, présidente des éditions Belin, déclarait au Monde que, je cite, « ce n'est pas nouveau que les manuels primaires intègrent cette orthographe, certains le faisaient déjà ». Donc, Rien de nouveau.
Rien de nouveau sous le soleil.
C'est ça. On assiste alors à un véritable amalgame entre réforme de l'orthographe, refonte des programmes scolaires, réforme du collège, etc. Le ministère de l'Éducation nationale a eu beau dire que cette réforme de l'orthographe n'émanait pas de lui, qu'importe. Mais il faut tout de même rappeler qu'il s'agit d'une décision des éditeurs, de manuels scolaires, donc d'entreprises privées. Certes à l'occasion de la refonte des programmes, mais pas provoquée par eux. Et je noterai par ailleurs que cette réforme apparaissait déjà dans un bulletin officiel datant de 2008. Je peux comprendre qu'on soit attaché à la langue française, car en France, c'est un véritable marqueur politique. Et je citerai l'article 2 de la Constitution française
nous
qui
t'écoutons.
Est « La langue de la République est le français ». Mais c'est être aveugle que de croire que notre langue est apparue un beau matin telle que nous la connaissons. De plus, intenter un procès en laxisme linguistique à l'Académie française, institution ô combien conservatrice, c'est un peu fort de café.
Bisous à Finkielkraut au passage.
C'est ça. Faux débat, mensonge, agitation bien vaine, voilà comment je résumerai cet épisode peu glorieux. Cela nous apprend donc qu'il est bien facile de faire le buzz en politique, moins de parler des problèmes de fond, à savoir comment faire apprendre la langue française, sa syntaxe, sa construction, ses difficultés mais aussi sa richesse, pour réduire des inégalités sociales criantes à ce niveau. S'agiter sur des accents circonflexes, des oignons ou des nénuphars, franchement, c'est taper contre un arbre qui masque une bien triste forêt.
Merci Mathias. Alors je vous propose maintenant de terminer votre café en douceur, avec un sujet léger, léger comme une bulle immobilière ou une bulle financière qui exploserait. There is no alternative.
Quel est vraiment le problème?
Il se passe des choix
économiques, mais aussi un problème moral.
Et c'est Lino qu'on retrouve aujourd'hui, un Lino que je suis très content d'accueillir à nouveau en studio à Transistor.
Merci Clément, moi aussi je suis très heureux de signer mon retour sur les ondes de Transistor et dans la ville de Lyon. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, il y en a quelques-uns, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de chroniques et d'émissions d'écho l'an dernier. Il était généralement question de sujets réjouissants comme les crises bancaires et monétaires, le chômage,
la crise grecque,
les dérapages budgétaires, la crise du marché du travail français. Bref, un ensemble de sujets qui laissent à penser que l'année 2015 n'était pas terrible. Pourtant, dans le genre année pourrie, 2016, elle commence fort et j'aime bien. Les valeurs financières s'effondrent. Le FMI s'inquiète de la faiblesse des pays émergents. Et maintenant, on apprend que la Chine entame une crise de change. On n'est que début février et on a une année qui commence très bien.
Alors, du coup, parmi tous ces sujets très réjouissants, tu as choisi lequel aujourd'hui?
Bon, l'affolement des marchés financiers, on va faire ça dans Tina parce que c'est une question qui est complexe.
Tina, tout à l'heure sur Transistor.
Voilà, merci. Du coup, je vais vous parler de la crise chinoise.
Très bien.
Clément, je vais commencer par une petite question.
Oui.
Te souviens-tu le régime de change de Pékin ?
Ah mais c'est une question piège, Lino, puisque jusqu'à l'été dernier, le yen ou le renminbi était ancré sur le dollar. Mais en août dernier, la Chine a annoncé faire un pas vers la liberté de fluctuation de la monnaie, c'est-à-dire un régime de change beaucoup plus flexible.
Bravo Clément, tu m'épates. Tu as révisé telle attention. Mais... tout de même, il y a quelque chose qui me dérange. Le régime de change n'est pas totalement flexible. Il s'agit en fait de bandes de fluctuations. Donc je te mets un petit 14 sur 20, peut mieux faire.
C'est gentil, merci Lino.
Pendant sa période de haute croissance, la Chine a connu une série de larges excédents commerciaux dus à la fois à une économie extrêmement productive et à une consommation intérieure faible. Dans une économie où le taux de change est libre de s'ajuster, le yen aurait dû en fait s'apprécier afin de ramener importation et exportation à l'équilibre. Néanmoins, une manière d'éviter cette appréciation du yen a consisté à accumuler des réserves de dollars, ce qui fait en fait grimper le dollar à la même vitesse que le yuan et implique donc que le taux de change est inchangé. Et j'ai dit yen, ce n'est pas le yen, c'est le yuan.
Et bon, c'est bien gentil tout ça, mais quel rapport avec la crise ?
Cet ancrage, qui est le régime de change d'avant août 2015, comme tu le disais parfaitement, permettait de maintenir la compétitivité de l'industrie chinoise et ainsi d'accumuler des excédents commerciaux monstrueux qui eux-mêmes impliquaient d'accumuler plus de réserves, etc., etc. On est finalement arrivé à un petit pactole de 4000 milliards de dollars de réserves. Néanmoins, cette stratégie dépendait de manière assez critique de la demande mondiale.
Et depuis, évidemment.
Et depuis plusieurs années, le commerce international est assez morose. Et à cela s'ajoute la chute des cours du pétrole qui renforce les risques de crise de la dette d'une partie des pays émergents. Au final, les chiffres de croissance chinois ont ralenti pour tomber à 6,9% en 2015, sachant qu'ils sont probablement gonflés. Les anticipations se sont dès lors retournées et les capitaux ont commencé à fuir. Avec une monnaie flexible, cela aurait dû entraîner en fait une dépréciation du yuan qui est malvenue au moment où la Chine cherche a besoin d'une monnaie forte. Afin de maintenir le change, la Banque centrale chinoise a entamé le processus de désaccumulation des réserves de dollars qui se passe depuis 6 mois. Et pour éviter que les réserves fondent comme la neige au soleil, il a été décidé de laisser fluctuer librement le cours du yuan au sein de bandes.
Et puisque, j'imagine, la limite inférieure de la bande a été atteinte, que s'est-il passé ?
Eh bien, pour que le change reste fixé à cette limite inférieure, il a fallu recommencer à désaccumuler. Et les mauvaises nouvelles, en fait, se sont enchaînées. Hausse du taux d'intérêt américain, qui implique alors une appréciation du dollar, et donc une baisse du yuan. Chiffres décevants pour l'économie chinoise et mondiale qui se confirment, secteur industriel chinois qui reste très endetté. Les réserves ont fondu à seulement 3200 milliards alors qu'elles étaient de 4000 milliards l'an dernier.
Ah oui.
Ces derniers mois, ce sont même 100 milliards de dollars de réserves par mois qui se sont épuisés. Or, d'après le FMI, en dessous de 2800 milliards, donc d'ici 4 mois, si la tendance se confirme, et que les mesures de limitation de liberté de capitaux ne font pas effet, la Chine devra laisser sa monnaie fluctuer librement.
Et qu'est-ce que cela entraînera ?
Ce phénomène est typique de ce qu'on a appelé les crises de change de première génération à la suite des crises de change asiatiques des années 80. Lorsque la banque centrale ne parvient plus à maintenir le taux de change, elle doit abandonner le régime de change fixe. Le réajustement du taux de change est alors extrêmement violent puisque celui-ci s'ajuste aux fondamentaux. Cela a des effets dramatiques sur les firmes participant au commerce international. Et en particulier, le départ de capitaux met en danger leur bilan si elles ne disposent pas d'un coussin de sécurité. En général, cela provoque une récession, même si on n'ira pas jusque-là pour la Chine. Ce changement de régime peut juste avoir des effets importants sur l'économie.
D'accord. Eh ben merci Lino pour ton édito économique. Lino spécialement revenu de Paris pour vous livrer ce billet. Tout Transistor te remercie chaleureusement. On va maintenant enchaîner avec la revue de presse du jour.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors non, nous ne sommes pas avec Natacha Polony aujourd'hui, mais avec Jérémy, comme toujours. Alors, Jérémy, on ne connaît pas encore les détails du remaniement qui est attendu dans les prochaines heures, du remaniement du gouvernement, mais la presse revient ce matin sur l'ambiance de fin de règne qui domine la vie politique française.
Mais oui, alors il y a bien sûr le vote ric-rac des députés sur le projet de réforme constitutionnelle qui sonne comme un bien mauvais signal pour l'unité d'une majorité présidentielle décidément en pleine déliquescence. Et puis la déliquescence est aussi morale, comme le soutient Nicolas Bétou dans l'Opinion en plaidant toujours pour l'abandon du projet. Il est rare, dit-il, de montrer autant d'applications à transformer l'or en plomb. Et il fait référence à l'or, c'est l'unité nationale qui avait suivi les attentats de Paris. Et puis, fin de règne toujours, beaucoup de quotidiens reviennent aujourd'hui sur le passage de flambeau de Laurent Fabius, qui quitte le ministère des Affaires étrangères pour diriger le Conseil constitutionnel. Alors on sent presque de la nostalgie sous la plume de certains, même si le bilan de Fabius au Quai d'Orsay est pour le moins contrasté, comme l'indique Libération par exemple en une, Fabius au Quai d'Orsay entre COP et flop. Et puis le Figaro aussi va de sa petite formule évoquant un bilan entre lumière climatique et ombre syrienne. Et c'est peut-être en effet dans les pages internationales du Figaro qu'on trouvera le meilleur exemple du bilan de Laurent Fabius. Sur la même page voisine un sujet sur l'Union européenne qui est prête à réexpédier des migrants vers la Grèce et vers la Turquie. Et puis juste en bas un autre sujet sur l'asphyxie des rebelles syriens. Vous savez, ces islamistes prétendument modérés qui finissent par s'allier avec Daesh alors que l'Europe les soutenait mordicus. Deux questions sur lesquelles la diplomatie française ne s'est pas particulièrement illustrée avec Fabius.
Et alors, les femmes et le féministe font aussi l'actualité ces jours-ci.
Mais oui, et pas toujours pour le meilleur, malheureusement. D'abord, il y a les femmes dans l'entreprise. Libération évoque le sexisme quotidien au travail, ces petites phrases par lesquelles les hommes perpétuent la domination. Et sur le même sujet, le Parisien nous apprend que dans les entreprises non cotées en bourse, il n'y a que 14% de femmes qui occupent un poste au conseil d'administration.
Et tout de même.
Ouais, et une administratrice dans une entreprise l'affirme, les femmes, c'est moins de testostérone, moins d'ego et un regard différent. Donc c'est toujours toujours positif, car il est bien connu qu'un utérus protège des crises d'égo.
Évidemment.
Et d'ailleurs, Marianne nous le prouve avec une petite enquête sur le plan com bien orchestré de Taubira, qui a fait tout son possible pour qu'on parle le plus longtemps de son départ du gouvernement. Alors heureusement que les femmes, c'est moins d'égo, ça apaise. Et puis alors on pourrait se dire que si, comme Taubira, les femmes aussi peuvent se montrer cyniques et narcissiques, comme les hommes, l'égalité en politique est acquise, non ? Eh bien, c'est pas si sûr. Staliste nous informe que le président du comité sénatorial du Kansas a interdit les mini-jupes, les décolletés plongeants et les pantalons serrés aux sénatrices pour ne pas distraire leurs collègues mâles. Pauvre petite chose fragile.
Et on ne sait pas quelle est la petite chose. Enfin bref, on pourrait peut-être aussi interdire les mini-jupes et les décolletés à Cologne, non ?
Mais oui, ma foi, pourquoi pas. Le numéro de Causeur de février revient dans un long dossier sur les embarrassantes agressions sexuelles à Cologne la nuit de la Saint-Sylvestre. Et Elisabeth Lévy n'y va pas avec le dos de la cuillère. Répétons-le encore et toujours, dit-elle, tous les immigrés ne sont pas des violeurs. Mais à Cologne, tous les violeurs étaient des immigrés. Il ne suffira pas d'accorder le statut de réfugié à ceux qui arrivent aujourd'hui et un passeport à leurs enfants demain pour que ceux-ci deviennent des Français, des Allemands ou des Suédois. De quoi relancer le débat.
Et Elisabeth Lévy nous permet de reparler de la nation. Encore.
Oui, il y a une tribune pas inintéressante sur le sujet dans les pages idées de Libération. Et Sébastien Ledoux, chercheur en histoire contemporaine, plaide pour que l'on dépasse les polémiques, hein, vous savez, sur Vichy, sur la colonisation, en proposant une narration nationale émancipatrice autour des luttes politiques et des résistances sociales. De quoi apaiser sans dépolitiser, peut-être.
Et alors, un autre sujet de débat dans la presse, BFM TV... est-elle dangereuse ? C'est la question.
Oui, c'est la question posée en une par le Quinzomadaire Society, dans une longue enquête qui montre comment BFM a bouleversé le paysage médiatique par une accélération du temps de l'information fondée sur une version cheap de CNN. Et comme le dit un sociologue des médias, les journalistes de BFM ne sont pas là pour questionner le sujet, ils sont là pour être réactifs. Un principe journalistique rudimentaire mais efficace et qui finit par faire école. Alors on a du mal à ne pas faire un lien avec un excellent article du Monde Diplomatique sur la domination de l'émotion dans la sphère publique, des médias aux hémicycles. Et Anne-Cécile Robert montre comment l'émotion pose un problème à la démocratie, justement parce qu'elle dépolitise l'analyse. Elle plaide au contraire pour le temps long, la rationalité, et en somme, toutes ces choses qui ne sont pas montrables sur BFM TV.
Et on finit cette revue de presse avec un peu de bonheur.
Mais oui, alors on en manquerait presque, hein, du bonheur par ces temps de grisaille, non ? Alors c'est dans 20 minutes, ce sont les Émirats Arabes Unis qui ont nommé une femme ministre du bonheur, une autre de la tolérance et une autre de la jeunesse. Donc heureusement qu'on a les femmes quand même, hein, comme Christiane Taubira ou Elisabeth Lévy, pour la douceur, la tolérance, la jeunesse.
Alors merci beaucoup Jérémy pour cette revue de presse. Tu restes avec nous en plateau, oui. Puisque pour terminer cette demi-heure d'actualité, tu nous as dégoté une bonne nouvelle, je dirais même une excellente nouvelle, et je crois que tu souhaites en faire profiter le monde entier. C'est la bonne nouvelle de Jérémy juste après un jingle. Alors on est cool avec Jérémy.
Oui, alors la bonne nouvelle du jour, elle nous vient une fois n'est pas coutume du gouvernement français. Le gouvernement français qui a lancé un compte Twitter au mois de décembre pour diffuser une contre-propagande contre celle de l'État islamique. Ça fait rêver, ça ne peut que marcher.
Merveilleux.
Et ce qu'on y lit est franchement réjouissant dans le genre ineptie rédigé par des branquignoles du gouvernement. Alors, il y a des mises en garde hyper flippantes. Oubliez le jean avec Daesh, vous disparaissez pour un simple écart de dress code. Ou alors cet autre tweet qui semble nous informer que Daesh se fournit en radiateur électrique sur le bon coin, capture d'écran bidon à l'appui. Mais oui, je vous jure. Mais alors, le sommet du sommet, ça a été ce prétendu témoignage publié la semaine dernière. Je cite le tweet. Arrivée à Raqqa, aussitôt veuve, enceinte, elle cherche depuis à se faire sauter. Évidemment,
mais
oui. Mais
oui. Mais le gouvernement
c'est
français.
C'est grandiose. Bon, bien sûr, vous vous en doutez, hilarité immédiate des internautes, raillerie, indignation, tout ça. Mais alors, les vaillants soldats de la contre-propagande ont fini par rectifier en ajoutant au tweet initial « Elle cherche depuis à se faire sauter avec des explosifs ». Bien sûr, le mal était fait quand même. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça me réjouit, ce petit chassé-croisé entre le camp du bien et du mal. Oui, oui, ce choc des titans, chacun cherchant à damer le pion à l'autre depuis son clavier d'ordinateur, ça me fascine. Et ça m'a rappelé, vous savez, cette fameuse blague...
Oh, mais tu vas nous en faire profiter, mais cette blague.
C'est le dialogue entre le sadique et le masochiste. Alors, il y a le masochiste qui trépigne, « Fais-moi mal !» Et le sadique qui lui répond, « Non, allez comprendre !»
Ah, merci Jérémy, merci pour cette morale très édifiante à ton billet. Alors c'est ainsi que se conclut cette première demi-heure dans ce moment. Une demi-heure très sérieuse, hein, on en convient. Et on va maintenant parler culture, science, et on va faire un peu d'humour aussi. Il va être 14h30 sur Transistor, c'est l'heure du journal de la culture.
Les Zola, les Saint-Ex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas, la culture est une...
Un journal de la culture qui vous est présenté par Héloïse et Clémence. Bonjour.
Bonjour. Alors bonjour chers auditeurs et bienvenue dans le journal de la culture de ce jeudi 11 février 2016. Au programme aujourd'hui, l'actualité tout d'abord, avec des nouvelles arrivées tout droit de l'Opéra de Paris, mais aussi les sorties de la semaine et toujours en matière de cinéma, le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Nous reviendrons également sur la polémique... du moment concernant la réforme de l'orthographe, on en entend parler à tue-tête, info et intox, nous tenterons de faire le tri. Puis restez à l'écoute pour un moment de détente avec les actualités culturelles insolites du moment.
Un petit tour de l'actualité culturelle de ces derniers jours tout d'abord. Donc une étoile va en éclipser une autre puisque c'est Aurélie Dupont qui va succéder à Benjamin Millepied à la direction de la danse de l'Opéra de Paris. Donc suite à de nombreuses critiques, notamment les nouvelles réformes que ce dernier voulait apporter, Benjamin Millepied avait confirmé ce jeudi 4 février sur Twitter la rumeur qui courait depuis la veille de sa démission. Donc qui est Aurélie Dupont? Eh bien c'est un pur produit du ballet de l'Opéra de Paris. Elle est rentrée à l'école de danse de l'Opéra à 10 ans, dans la compagnie à 16 ans, puis elle a gravi tous les échelons avant d'être nommée danseuse étoile en 1998. Elle a fait ses adieux à la scène en mai 2015 en interprétant l'histoire de Manon au Palais Garnier. À 42 ans, elle devient alors maîtresse de ballet. Pour info, Cédric Lapige avait filmé en direct sa dernière danse le 18 mai. Donc il avait ainsi déclaré « Il suffit de poser une caméra devant Aurélie Dupont pour voir qu'elle est exceptionnelle ».
Alors côté cinéma, on a eu beau fêter l'année du singe ce lundi, ce sont tout de même les gallinacés qui sont à l'honneur avec la sortie cette semaine du blockbuster Deadpool et de Chair de poule. Ces deux titres vous paraissent peut-être familiers. Le premier, Deadpool, n'est rien de moins que la dernière adaptation du comic Marvel créée par Rob Liefeld et Fabian Nicieza. Une adaptation portée à l'écran par Tim Miller, à laquelle on s'attendait d'ailleurs assez peu, presque sortie de nulle part, mais qui fait tout de même le bonheur des premiers spectateurs. Elle nous permet de retrouver à l'écran Ryan Reynolds, dorénavant habitué des Marvel puisqu'il apparaissait déjà dans X-Men et dans Green Lantern. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le comics, Wade Wilson,
un petit résumé.
Un ancien militaire reconverti en mercenaire, sert de cobaye au professeur Kilbrew, qui, par pur plaisir sadique, le dote d'un pouvoir d'auto-guérison. Alors Wade Wilson reprend ses activités de mercenaire, sous le pseudonyme de Deadpool, à la recherche de l'homme, d'un homme qui a gâché sa vie. Donc si vous avez envie de voir à l'écran un héros à la sauce The Punisher, n'hésitez plus, prenez vos tickets. Alors, en ce qui concerne Chair de poule, le nom vous est peut-être évocateur lui aussi, puisqu'il s'agit en fait d'une adaptation de la série de livres jeunesse écrit par Robert Steen. Cette adaptation, portée à l'écran par Rob Letterman, met en scène la rencontre d'un jeune garçon, Zach, avec l'écrivain Robert Steen, un homme mystérieux qui, bien plus qu'un simple écrivain, est en fait le geôlier des monstres qu'il tient enfermés dans ses livres. Mais Zach, qui ne se doute évidemment de rien, libère par inadvertance les monstres dans la ville.
Oh là là.
Et ben oui, retour en enfance garanti pour tous les adeptes de la série.
Et on va rester dans le thème du cinéma, puisqu'a lieu depuis vendredi dernier le 38e festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Donc avait lieu justement le Forum des images de Paris, la conférence de presse du festival. Donc au programme, présentation de cette 38e édition et projection de 5 films en compétition. Donc, comme chaque année, les films sont classés en trois sections, national, international et labo. Donc, on a des films venus du monde entier, au format divers, donc allant de 4 à 53 minutes. Et outre les films en compétition officielle, les festivaliers seront invités à découvrir des univers différents avec la rétrospective Star System, consacrée à l'espace, ainsi qu'une mise en lumière du cinéma suédois notamment. Cette nouvelle édition fêtera également le trentenaire de la prestigieuse école de cinéma La Fémis, l'occasion de mettre en avant les futurs talents de l'école. On a notamment des leçons de cinéma qui vont être à l'ordre du jour avec des séances organisées par les départements scénario, montage et séries télé. Donc un cursus qui avait été créé en 2013 à l'école. Donc en tout, c'est un peu plus de 400 films qui vont être projetés que l'on pourra découvrir cette année à Clermont. Si les sélections en compétition font se rencontrer les films les plus divers, une thématique semble néanmoins traverser cette nouvelle édition. Donc c'est l'attrait de beaucoup de jeunes réalisateurs pour l'adolescence et la préadolescence, et ainsi leur désir de capter les premiers émois de ces jeunes personnes.
Un bref mot maintenant au sujet des académiciens qui font décidément beaucoup parler d'eux ces derniers temps. Jeudi dernier, l'Académie a retenu les candidatures au fauteuil d'Assia Djebar, le fauteuil 5. Et parmi ces candidatures, on retient celle de l'écrivain d'origine russe Andrei Makin, amoureux de la langue française et auteur de 16 livres sous son propre nom et de 4 autres sous le pseudonyme de Gabriel Osmonde, détenteur, entre autres, des prix Goncourt et Médicis. Son arrivée a par ailleurs eu pour conséquence le retrait de la candidature de Frédéric Mitterrand. Affaire à suivre donc, avec une élection fixée pour le jeudi 3 mars 2016 qui déterminera qui de Michel Carassou, Éric Dubois, Eduardo Pisani ou Andrei Makin occupera le siège 5. Et bien sûr, tant que nous parlons de l'Académie française, comme il est impossible d'y couper en ce moment, un bref mot sur la réforme de l'orthographe qui agite les passions sur les réseaux.
Donc la réforme, est-ce que c'est finalement beaucoup de bruit pour rien ? On va revenir sur la polémique du moment.
Alors, pour resituer un peu le contexte, cette réforme, votée par le ministère de la Culture, se pose en fait dans la continuité d'une décision prise par l'Académie en 1990. Elle n'a donc rien d'une surprise, puisqu'elle a consacré l'entrée en usage des deux orthographes pour chaque mot réformé, il y a 26 ans. Donc, démêlons avec Héloïse les différents points abordés par cette réforme. Première question, est-ce que l'accent circonflexe va vraiment disparaître ?
Eh bien alors non, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu, l'accent circonflexe ne va pas disparaître, mais il va quand même s'effacer sur les voyelles I et U. Donc on va le maintenir néanmoins dans les terminaisons verbales du passé simple, du subjonctif et dans 5 cas d'ambiguïté.
Tout de même.
Notamment, voilà, quand même.
C'est-à-dire donc, sur les conjugaisons pas simples, précisément.
C'est ça. Donc on a tout d'abord le mot coup, qui donc dans la nouvelle orthographe perd son circonflexe sur le U. Les verbes donc, entraîner, nous entraînons, qui perdent leur accent circonflexe sur le I, et paraître, il paraît, qui les perdent également. Et donc ainsi, sur le I et le U, l'accent circonflexe ne joue aucun rôle phonétique. Et il est ainsi l'une des principales causes d'erreur. Et son emploi aléatoire ne peut être justifié par l'étymologie.
Et à propos du mot nénuphar, un exemple que l'on retrouve souvent comme illustration de la réforme, j'ai entendu que tu avais une petite anecdote, Héloïse. Quelle est la bonne orthographe ?
Alors, pour info, il faut savoir que l'Académie française avait écrit nénuphar de 1762 jusqu'en 1935, donc lors de la 8e édition de son dictionnaire. Et les rectifications orthographiques du français de 90 préconisent de revenir à cette orthographe du fait de l'origine arabo-persane du mot nénuphar. Car en effet, le digramme ph viendrait en fait du fa arabe et non pas du ph du grec ancien tel que l'on le croyait. Donc ainsi, en adoptant la graphie nénuphar, les académiciens se seraient laissés aller à un rapprochement sémantique avec les nymphes, mais également avec le genre nymphéa, qui est celui de certains nénuphars. Et donc, par plaisanterie, on avait appelé « guerre du nénuphar » les polémiques qui ont agité la France au début des années 91 à propos des rectifications orthographiques. Donc ainsi, les deux orthographes nénuphar PH et nénuphar F sont toutes deux valides depuis 90.
Alors merci pour toutes ces précisions. Une petite question pour le studio maintenant. À votre avis, sur 59 000 entrées dans le dictionnaire, combien sont concernées par la réforme ?
200.
Un petit peu plus.
Je sais pas, 10 000
3 000, pas loin.
Moins de 10 000.
Allez, Baptiste.
4 000, du coup.
Non, un peu moins.
Presque, c'est
Léo.
2 000.
Pas loin.
Pas si loin, pas si loin. Donc, 2 000 mots seulement, soit 3 à 4 % du lexique.
Ce qui reste relativement faible.
Quoi qu'il en soit, vous l'aurez certainement remarqué, la réforme vise une plus grande uniformité de la langue, une plus grande régularité. Et cet impératif de lissage de la langue n'a évidemment pas manqué d'éveiller les soupçons. On en entend parler à tue-tête, on entend parler notamment de nivellement par le bas, de sacrifice de la langue. Mais au-delà de cela, on peut toujours se poser la question de l'impact réel de cette réforme que les manuels scolaires introduisent déjà depuis 2008 et qui, de toute façon, ne révolutionnera pas l'usage de sitôt.
Donc maintenant, un petit tour de l'actualité la plus incongrue de ces dernières semaines. Donc souvenez-vous, dans le deuxième volet de Retour vers le futur, donc sorti en 89, Marty McFly fait un bond dans le temps pour se retrouver le 21 octobre 2015 dans un monde où les voitures volent et où les chaussures se lassent toutes seules. Donc si la recette des voitures volantes n'est pas encore au point, en revanche, il semblerait que l'on puisse bientôt se passer de lacets. Donc le film Retour vers le futur 2 a inspiré une start-up française qui a conçu des baskets connectées capables de s'attacher automatiquement. Donc la Smart Shoes 01 a l'aspect d'une grosse basket et en réalité pas de lacets mais une large languette qui se relève et s'abaisse automatiquement afin de serrer ou desserrer la chaussure.
Et ben on retient cette information et c'est ainsi que se conclut ce journal de la culture. Merci à vous Héloïse et Clémence, merci à vous deux. On va maintenant complètement changer d'univers. On va rester avec Léo qui s'est installé en studio il y a environ 10 minutes et je crois qu'il a des nouvelles, scientifiques à nous communiquer.
Alerte au Mexique avec l'ouragan Patricia classé en catégorie 5, potentiellement catastrophique.
Une trop grande consommation de viande aggrave les risques de développer un cancer. Yes, science!
Alors bonjour Léo.
Bonjour Clément.
Et alors l'actualité scientifique est très riche en ce moment, c'est ça ?
Oui, elle a été prodigieusement chargée ces derniers temps. Et bien qu'il serait publié aujourd'hui la première observation d'ondes gravitationnelles, un petit séisme dans le monde des physiciens, je vais vous parler de deux autres points importants qui ont marqué les informations ces dernières semaines. Commençons par un petit rappel. En 2003, il y a eu lieu la pandémie mondiale de SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. En 2009, pandémie mondiale de grippe H1N1. En 2012, petit nouveau sur la scène, le coronavirus MERS au Moyen-Orient, puis en Corée. En 2014, c'est l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Bienvenue donc à la cérémonie de la maladie flippante et inquiétante édition 2016, qui d'ores et déjà a un candidat de poids. L'OMS vient à nouveau de proclamer une urgence de santé publique de portée mondiale, traduit par « faudrait vraiment faire quelque chose là » sur le virus Zika, un flavivirus transmis par le moustique Aedes aegypti, comme la dengue ou la fièvre jaune. Le ZKV, le petit nom du virus Zika, n'est pas fortement dangereux pour la plupart des êtres humains. L'infection peut se faire par une piqûre ou alors par voie sexuelle.
Intéressant.
Dans 80% des cas, le virus ne donne aucun symptôme. S'il y en a, ils sont proches d'un état grippal et disparaissent en 4 à 7 jours. Avec très rarement, par contre, des complications neurologiques et auto-immunes de type syndrome de Guillain-Barré. Si vous êtes une femme enceinte, là, les choses se gâtent. Le fœtus peut être touché par une microcéphalie, un sous-développement du cerveau et de la boîte crânienne, aboutissant malheureusement à des handicaps et des retards mentaux plus ou moins sévères, voire la mort. Bien que le lien n'ait pas encore été formellement confirmé, la prudence est de mise, d'autant plus que le virus se propage très rapidement. L'Amérique du Sud est fortement touchée. Le Brésil a déclaré plus d'un million de cas et ses voisins ont pour la plupart dépassé les 10 000 cas. Mais il est présent également en Asie du Sud-Est, en Indonésie et en Afrique équatoriale, son vrai lieu d'origine.
Ah, il s'est déplacé ce virus.
C'est
hein.
Un voyageur. Il aurait d'ailleurs été probablement importé au Brésil lors de la Coupe du Monde de football il y a 2 ans. Ce serait adapté au climat local avant de se disséminer de manière explosive. Dans le même temps, il remonte également les Caraïbes ainsi que le Mexique et des cas importés ont été détectés aux États-Unis ainsi qu'en Europe. Un vrai globe-trotteur.
Ah oui.
La fin de l'hiver dans l'hémisphère nord laisse craindre d'ailleurs une propagation bien plus forte à partir de mars et avril, sans compter les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro qui laissent craindre une dissémination massive du virus dans le monde entier. Bon, c'est déjà le cas, mais bref. Pour ce qui est de le soigner, aucun traitement ou vaccin n'existe actuellement. Un seul est en développement. On ne peut que soigner les symptômes pour l'instant. Quant au vaccin, il faudra au minimum plusieurs années pour que ce dernier soit disponible, car le virus vient tout juste d'être mis sous le feu des projecteurs.
Et alors, il y a un deuxième point dans cette actualité scientifique dont tu veux nous parler.
Oui, un point tout aussi rassurant. Donc, une expérimentation sur embryons humains a été autorisée en Angleterre par l'autorité britannique de la fertilisation humaine et de l'embryologie le 1er février. Première en Europe, l'expérience vise à identifier des défauts de certains gènes intervenant dans la construction du placenta et qui sont responsables de fausses couches, en utilisant la méthode CRISPR-Cas9 qui permet de modifier les gènes. Exactement. Mais elle donne la bave à tout biologiste qui se respecte, Clément. Il y a quelques mois déjà, des chercheurs chinois avaient annoncé être parvenus à modifier un gène défectueux de plusieurs embryons, responsable d'une rare maladie du sang. Je vous laisse deviner l'inquiétude et les craintes de dérives, notamment eugénistes, de cette méthode de la part de la communauté scientifique. Pour l'instant, en tout cas, la méthode est loin d'être efficace sur les embryons. Reste que les dérives existent déjà. Certains proposent de choisir certaines caractéristiques de votre futur enfant, comme le sexe. Et là, ce ne sont pas les scientifiques qui sont responsables.
Alors merci Léo pour ces nouvelles de l'actualité scientifique. On te retrouve d'ailleurs plus tard dans l'après-midi, dans Biologica Radiophonicus, où tu seras en couple avec Baptiste.
Yeah.
Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Baptiste, je crois qu'il est l'heure de la météo.
Eh oui.
Alors Baptiste, est-ce que le temps est calor ?
Eh bien, vous allez voir. Aujourd'hui, jeudi 11 février, il fait environ 8 degrés Celsius. Je suis désolé. Selon Météo France, et le ciel est nuageux. Des légères précipitations sont à prévoir en fin d'après-midi sur la région lyonnaise. Mais rassurez-vous, il semblerait que ce ne soit que de la pluie.
Que de la pluie.
Ouais, je dis ça parce qu'en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais apparemment cette semaine, un conducteur de bus aurait été tué par une météorite. Mais parfois, il pleut également des animaux, comme des oiseaux, des poissons ou des grenouilles. Il a même plu des crevettes en Australie en 1978. En tant que bon météorologue, j'ai cherché les explications les plus rationnelles, les plus probables d'Internet pour expliquer cela.
Mais oui.
Hypothèse numéro 1. Le châtiment divin. Dans la Bible, la pluie de grenouilles est l'une des 10 plaies d'Égypte. Mais comme Dieu est généreux, il a aussi fait pleuvoir des cailles dans le désert pour sauver les Hébreux mourant de faim. Hypothèse numéro 2, l'intervention extraterrestre. Parce que, ouais, faire pleuvoir des pigeons, c'est quand même beaucoup plus swag que tester son compas en faisant des crop circles dans les champs ou en enlevant des gens dans leur sommeil. Hypothèse numéro 3, la faille spatio-temporelle. C'est connu, les poissons se téléportent quand ils en ont marre de nager. Et hypothèse numéro 4, les tests militaires. Bon, là vous avez le choix. Soit on teste des nouvelles armes électromagnétiques destinées à tuer les oiseaux, on ne sait pas trop pourquoi, ou bien on essaye de trouver un moyen biologique pour remplacer les missiles. Daesh n'a qu'à bien se tenir, sinon on les bombarde de grenouilles ou de poissons. Tout de suite, ça calme.
Effectivement, tout de suite, ça calme. Merci Baptiste pour cette météo. Alors j'espère vraiment qu'à Lyon, cet après-midi, ce ne sera que de la pluie. Mais au cas où, chers auditeurs, vous êtes prévenus. Et alors tu restes avec nous pour l'horoscope, mais avant, c'est l'heure de l'éphéméride assurée aujourd'hui par une femme très très occupée.
Pause et jeudi à bras ouverts, vendredi à pluie battante, samedi à cœur battant, samedi longue et latente, dimanche on a tout le temps.
Tout droit sorti des années 70, Bernard Richer sur Transistor.
Oui, merci pour ce kitsch, Clément.
Avec plaisir.
Alors aujourd'hui, ce 23 pluviose de l'an 224 de la République française, nous fêtons les chiens-dents. Bonne fête, chiens-dents.
Bonne fête, chiens-dents.
Oui, alors non, les enfants. Imaginez-moi en prof sexagénaire sur le départ avec genre la poitrine très très tombante. Oui, aujourd'hui, jeudi 11 février, nous souhaitons une bonne fête à toutes les Notre-Dame de Lourdes. Oh madame, ça veut dire qu'on fête les meufs relous. Exactement, mon petit Charles Kevin. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on fête également les Héloïse aujourd'hui. Et oui, je trash sur les gens qui sont partis.
Oh, mais bonne fête Héloïse.
Je rigole Héloïse. Bonne fête à toi Héloïse, ou Elvisa, ou Elvis qui nous écoute. Ton illustre homonyme était une recluse française de l'abbaye bénédictine de Coulon, au fin fond de ma chère Normandie. Les couvents, c'est bonne ambiance. Dire que je me plains de la prépa à Greg. Mais je m'égare.
Oui, tu t'égares un peu, Marie.
Pas de jaloux. On souhaite une bonne fête également à tous les Séverins, les Ardingues, avec un J à la fin, les Calossaires, les Castrensis, les Quenemont, les Sautères, les Simplices et autres désirés d'Auvergne. Désiré d'Auvergne.
Ça existe.
Tu parles comme si on avait demandé à voir Laurent Wauquiez à la tête de la région. On fête également la première apparition de la Vierge à la petite Bernadette dans la ville de Lourdes. D'ailleurs, c'est la journée internationale des malades. Donc vous tous qui êtes ressortis enrhumés, grippés, enginés, n'est-ce pas Clément ?
Merci
sans
Marie.
Voix, n'est-ce pas Clémence ? Blessé, n'est-ce pas Baptiste ? Esquinté, mutilé dans votre dignité après le gala de l'ENS ? Je prie pour vous. 11 février, on souhaite un bon anniversaire à un humoriste français, Dieudonné. Ouais, en fait, non, on va te faire foutre. Un bon anniversaire à une humoriste américaine, Sarah Palin. Un bon anniversaire à un drôle de transhistorien devenu humoriste, professeur en collège, Florent Marcousi. On pleure encore la mort de René Descartes et de Whitney Houston.
Oh.
Oui, oui, chacun ses choix, les loulous. Demain, nous fêterons les Félix. Nous serons toujours dans le premier croissant de lune. Le soleil se lèvera à 7h50 et se couchera à 18h. La lune est montante. Et côté botanique, ce sera le moment opportun pour se repiquer la petite salade et se tailler le poireau. Je dis ça, je dis rien. Mais pour l'heure, c'est jeudi. Vous êtes sur Transistor, vous y êtes bien. N'oubliez pas d'aller faire la fête ce soir et d'aller remuer votre boulier rebondi en festive. Car comme le dit avec classe le proverbe du jour, à la Saint-Séverin, il faut se chauffer les reins.
Alors merci beaucoup Marie et bonne fête encore à toi Héloïse qui est en ce moment en régie. Et on continue les festivités avec l'horoscope.
Dans mon horoscope, il y a des chômeurs. Dans mon horoscope, il y a des moches. Des très moches. Dans mon horoscope, amour, ça dépend. Travail, ça dépend. Ça dépend des gens.
Alors, rebonjour Baptiste.
Rebonjour.
Tu as passé la nuit à regarder les étoiles. Que nous disent-elles ?
Alors, aujourd'hui, j'ai voulu un peu changer de l'ordinaire horoscope que l'on retrouve à la fin du programme télé.
C'est tout à ton honneur.
Et du coup, je vous dénicher des prédictions véridiques d'après Internet de l'horoscope chinois. Donc, l'ordre des signes du zodiaque chinois aurait été déterminé, selon la légende, par une course sous l'empereur de Jade, chef des dieux. Commençons sans tarder avec le rat. Alors, le rat, c'est le traître, le fourbe, la raclure.
Ah oui.
Tout d'abord, il a trompé le chat qui n'est pas venu à la course.
Oh le salaud!
Et ne fait donc pas partie des animaux. Mais en plus, il a complètement trahi le buffle. En effet, ce brave buffle avait accepté de porter le rat. Mais juste avant la ligne d'arrivée, paf! Le rat a sauté à terre pour finir premier. Des rats célèbres sont Gérard Depardieu ou Alain Flelou. Je tiens à préciser que j'ai cherché toutes ces personnalités à la main.
Oh.
Bœuf ou buffle? Constance et fiabilité. Un don inné pour les grands exploits. Exemple, Hitler. Tigre, courage et noblesse, leur autorité naturelle a vite fait de mettre tout le monde dans le rang. Exemple, Manuel Valls ou Lady Gaga. Lapin ou lièvre, les lapins sont extrêmement populaires et leur compassion est débordante. Exemple, Eva Longoria et Catherine Laborde.
Oh bah oui.
Oui, oui, elle est trop mignonne, Catherine Laborde. Dragon, puissance et agressivité sont les traits dominants des dragons. Ils sont dotés d'un charisme fou et d'une sélection naturelle, même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Exemple, Conchita Wurst.
Pour un biologiste, ça fait mal quand même.
Oui, mais bon, Conchita Wurst, c'est sa sélection naturelle. Serpent. Les serpents sont des personnalités complexes, caractérisées par un curieux mélange d'instinct grégaire et d'introspection. Ils sont tellement complexes que je n'ai pas trouvé d'exemple. Cheval. Le charme irrésistible du cheval agit comme un aimant envers les autres.
Oh.
Le cheval ne reste jamais célibataire très longtemps. Exemple, François Hollande. Chèvre ou mouton, les chèvres devraient apprendre à se relaxer et laisser les autres mener la danse de temps en temps. Exemple, Nicolas Sarkozy. Le singe est un amuseur public né. Cependant, son manque de moralité dans sa quête du plaisir personnel lui jouera parfois des tours. Exemple, Kim Kardashian. Coq ou phénix, mais même si je préférais si j'étais un coq ou phénix, c'est
oui,
plus classe.
Phénix, alors.
Les coqs sont des conservateurs, préférant s'attacher aux méthodes dont l'efficacité a été prouvée plutôt que de prendre des risques compliqués et inutiles. Du coup, exemple Marie, Clément et Beyoncé.
Au moins, on est avec Beyoncé, Marie.
Oui.
Chien.
Vous ne plaignez pas. Hein.
Les chiens sont loyaux, fidèles et honnêtes et collent toujours à leur ferme code d'éthique. Exemple, Donald Trump et Madonna. Et on finit avec le cochon. Le cochon est à tel point magnanime qu'il peut paraître sain. Grâce à son cœur en or et son amour pour les siens, le cochon est un partenaire idéal dans la vie de tous les jours. Et si vous vous posez la question, oui, c'est bien mon signe. Hashtag je suis cochon.
Merci Baptiste pour cet horoscope chinois.
Avec plaisir.
Même si je suis conservateur. Alors, il est 14h53 sur Transistor et en ce moment, ce n'est pas tout à fait fini. Je crois que Lucas a quelque chose à nous dire. Alors, Léo nous a parlé du virus Zika. Toi, Lucas, tu veux nous parler d'une question scientifique de la plus haute importance.
Et oui, Clément, je vais m'éloigner de ces hérésies horoscopiques pour une révolution épistémologique qui a commencé l'autre jour lors d'une soirée bien arrosée en compagnie de Léo, ici présent. Nous discutions des possibilités scientifiques de nos disciplines respectives, à savoir la biologie et l'histoire, quand, autour de notre cinquième chouffe, Léo me fit remarquer ceci, donc. De toute façon, les problèmes de l'histoire, c'est qu'on peut pas faire d'expérience. Parce qu'un rat, bon, bah, peut toujours l'ouvrir de là à là, et puis voir comment ça marche dans l'intérieur. Tandis que tout en camant, bah, t'as beau ouvrir, en plus, de toute façon, les boyaux, ils sont déjà sous Tupperware.
Oui,
eh bien, je pense que c'est normal, si tu t'en souviens pas.
Eh bien, vois-tu, je ne sais pas si c'était toi ou ton taux d'alcoolémie qui parlait, mais en tout cas, ça avait raison. En effet, je me suis dit, n'est-il pas temps d'arrêter de se morfondre dans l'acceptation paresseuse de la non-exactitude des sciences sociales et d'abandonner notre chauvinisme méthodologique, d'importer les méthodes rigoureuses de nos confrères de sciences dures ? Dès le lendemain, je m'attelais donc à la tâche de faire de l'histoire une discipline expérimentale et mobilisant les mathématiques. Et quel meilleur sujet pour démontrer l'efficacité de la nouvelle méthode que la question des questions, à savoir le sens de l'histoire ?
Évidemment.
Abandonnons donc les spéculations onomastico-métaphysiques de nos confrères philosophes, que je salue au passage, et prenons les coordonnées géographiques de Babylone, Tyr, Athènes, Rome, Madrid, Paris, Londres, New York et Shanghai, villes qui se sont trouvées en position hégémonique au cours de l'histoire. Si l'on représente ces villes sur un graphe avec la longitude en abscisse et la latitude en ordonnée, et qu'on trace une courbe de tendance, on obtient une droite d'équation f de x égale moins 0,076x plus 40,794.
Oui,
oui, j'ai vraiment fait ce calcul.
Oui.
Reportée sur une map-onde, cette droite permet de dessiner,
Elle permet de dessiner
la tendance générale de l'histoire.
D'accord.
Imaginez alors mon excitation.
Ah bah oui,
renvoyant dans leur poussette tous les sales gosses mégalomanes d'Auguste Hegel, j'avais enfin une réponse empirique. Je me précipitais alors chez Léo pour lui montrer le résultat de mon étude et je m'exclamais « L'histoire avance vers l'ouest selon un angle de 4,34 degrés par rapport à l'équateur ». Et pourtant, Léo, qui avait cuvé sa chouffe et qui parlait désormais sans une once d'influence éthylique notable, ne se montra pas convaincu. « Ta méthode n'est pas adaptée au problème, me dit-il. Tu ne peux pas poser le problème du sens de l'histoire en faisant des calculs à partir d'une carte. »« Ah bon ? » répondis-je tout surpris. « Ben oui, tu négliges totalement la rotondité de la Terre. » Encore une fois, Léo, tu avais raison. Que serait la science moderne sans tes révélations salvatrices ? En effet, l'intégration de cette donnée produisait des résultats très différents. La trajectoire de l'histoire ne décrivait pas une ligne, mais une spirale s'enroulant entre les deux pôles. Ou, si on persiste à projeter sur une carte, d'une série de lignes parallèles distantes l'une de l'autre de 25 degrés de latitude. Or, ce modèle se prête bien mieux aux prévisions cohérentes que le précédent. En effet, si elle ne devait suivre que la première ligne, l'histoire aurait été condamné à se perdre dans les mers arctiques et les îles gelées du Canada septentrional. Comme il est peu probable que les Inuits deviennent le prochain grand empire soumettant les peuples sous sa botte implacable, mieux vaut postuler que l'histoire peut naviguer entre les différentes lignes qu'elle a, donc une marge d'inflexion potentielle de 25 degrés de latitude.
D'accord.
Sur ce, je rends l'antenne sans plus tarder pour m'en remettre à mes études.
Oui, peut-être, c'est mieux.
Je travaille cette fois-ci à déterminer de manière empirique quelles sont réellement les heures les plus sombres de notre histoire. Je ne voudrais pas encore faire d'hypothèses précipitées, mais nul doute que l'effet albédo et la réflexion du rayonnement solaire sur les calottes de la dernière ère glaciaire y seront pour quelque chose.
Merci Lucas, alors on a bien compris que tu cherchais un sujet de mémoire pour l'an prochain.
Et c'est dur.
Bon courage pour tes recherches, en tout cas on y croit beaucoup ou pas en fait. Alors on continue pour terminer en ce moment avec notre Corse préféré, le bien nommé Quentin Barthélémy Andreani, chargé de nous rappeler ce qui a pu advenir dans l'histoire le 11 février.
Eh oui, mais tu sais, je ne vais pas parler de Napoléon.
Eh bien, on t'écoute.
Bon, alors je vais commencer.
Bah oui, commence.
Clément, connais-tu l'acatophilie ? Petite question aussi pour Marie en même temps.
Alors, je connais ce mot avec un S, mais on va pas rentrer dans ces détails.
Voilà, tu as raison, parce que tu verras bien de toute façon. Alors, pour commencer, c'est l'histoire de deux nonnes. On va commencer sur quelque chose de très élaboré. Qui visitent les USA, alors elles ont faim, elles cherchent à se restaurer. Et elles voient, bam, un stand de hot dog. Regarde, ils vendent des hot dogs. Ça veut dire chien chaud. Ah bon ? T'as déjà mangé du chien, toi ? Non, mais allez, viens, on en commande. Elles passent leur commande et la
plus âgée des deux regarde dedans pour savoir ce qu'il en est. Et là, elle se met à rougir et demande à l'autre « T'as eu quel morceau, toi ?»
Alors Quentin, c'est très mignon tout ça, mais quel rapport avec le 11 février ?
Aucun, ou presque, parce que c'était juste l'histoire de poser le décor, parce qu'on va parler de nonnes. Le 11 février est un jour saint.
Je crains le pire.
D'ailleurs, petite blague au passage pour les panthéistes, Clément, pourquoi ne faut-il jamais pointer du doigt les choses et les gens ?
Quentin, j'ai vraiment très peur.
Parce que Dieu est partout et que ça pourrait lui foutre un doigt dans le cul.
Mais pourquoi, Quentin ?
Je t'ai dit, c'est pour poser le décor.
Bon, ok, mais on va peut-être s'y mettre. Tu vas nous parler de quoi ?
Alors, je vais te parler du plus sublime des miracles. L'apparition de la Vierge à Dame Bernadette Soubirous en 1858 à Lourdes.
Oui.
Alors, au début, évidemment, personne ne la croit. Surtout qu'elle est un peu creepy, la Bernadette. Lors d'une de ses visions, elle se met à creuser frénétiquement le sol boueux pour atteindre une sorte de source d'eau, puis boit l'eau boueuse avant de s'étaler la boue sur la figure. Puis bon, l'eau boueuse, franchement, c'est dégueulasse, quoi. Alors, je vois bien, à 14 ans, on n'est pas encore sorti tout à fait du stade anal, mais quand même. Non, parce que ça a beau être pour les pêcheurs, comme a dit la Bernadette, faut pas abuser avec le Dirty Sanchez.
Avis aux âmes sensibles, s'abstenir, enchaîne.
Même le commissaire du coin finit par s'énerver et lui dit très gentiment « Tu fais courir tout le monde, tu veux devenir une petite pute, espèce d'ivrognasse de putaro. » Alors, moi, je veux bien que les nonnes aient un rapport particulier à la prostitution, mais quand même.
Oui, alors enchaîne.
Alors, histoire illustrative,
oui,
c'est la sœur Marguerite qui demande à ses élèves quelle profession ils désirent exercer en étant plus grand. La petite Isabelle dit « Quand je serai grande, je serai prostituée ». Sœur Marguerite ouvre les grands yeux, injectée de sang et rougit « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»
Oui.
Qu'est-ce que tu viens de dire ? Une prostituée ! Reprend d'une petite voix toute tremblante la petite Isabelle.
Oh.
Sœur Marguerite porte la main à sa poitrine, pousse un gros soupir et dit « Ouh, Dieu merci, j'ai cru que tu avais dit protestante. » Bon alors, dans la petite histoire, la Bernadette devient une star, passe chez Ruquier, Lourdes devient célèbre, et surtout, une de ses copines Bernadette, Catherine Latapie.
Un savant mélange de Christine Lagarde et de Bernard Tapie.
Tout à fait, retrouve la mobilité de deux doigts paralysés en les trempant dans la source magique. Formidable, stupéfiant, mais l'histoire ne dit pas si c'était le majeur.
Oui, bon allez, tu conclus.
Et puis, plus rien. La pauvre enfant rentre dans un couvent et meurt à 35 ans. Pas de miracle, plus rien pour la Bernadette. C'était bien la peine d'avoir vu l'Immaculée Conception. Enfin bon, quand on boit de la boue, c'est sûr qu'on vit pas vieux. Hein.
Alors, merci Quentin pour cette morale très éclairante. Il est 15h et même 15h01. C'est terminé pour en ce moment le grand journal de la rédaction. Mais l'après-midi ne fait que commencer. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h et tout de suite le Flash Info présenté par un Quentin qui redevient sérieux.